Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, des enseignantes venues d'Europe sont accueillies à Digne dans le cadre d'Erasmus. Le reportage d'Odile Frison pour Force 7. Couleur paysanne, la coopérative agricole de vente directe devient incontournable et fête ses 10 ans. Des détails dans un instant. La dynamique Maison de la Presse de Sisteron fête le livre pendant tout l'été. Le reportage de Chris Alessandri dans ce magazine. Du 12 juillet au 20 août, les estivales 2022 se dérouleront sur le territoire de la DLVA. Des concerts gratuits pour animer des villages, c'est bon pour les résidents comme pour les touristes. À Sisteron, la galerie Sistar rend hommage à Alice Guy, pionnière du cinéma. Reportage pour Force 7 dans un instant. La visite de Joseph Chovanec au GEM La Différence de Manosque est un événement. Autiste Asperger et spécialiste du sujet, il nous a accordé une solide interview. Nous l'écouterons à la fin de ce magazine. Des enseignantes européennes sont accueillies à Digne.
Dans le cadre du dispositif Erasmus, 16 enseignantes européennes, allemandes, italiennes et portugaises, ainsi qu'une professeure franco-jordanienne, sont accueillies pendant une semaine par Canopée 04. Le challenge pour ces enseignantes volontaires est l'apprentissage de nouvelles méthodes pédagogiques faisant appel aux outils numériques et aux techniques de créativité, tout en pratiquant la langue française à l'oral et à l'écrit. Après quelques jours de formation, elles doivent réaliser une carte postale sonore à partir de l'ambiance du marché provençal de Digne-les-Bains. Sarah est italienne et enseigne le français. Elle répond aux questions d'Odile Frison, puis nous entendrons Mélanie Cornet du réseau Canopée.
Je suis Sarah Magazzar, je suis italienne, je suis professeure au collège, professeure de français. Donc je travaille avec des élèves à partir de 11 jusqu'à 14 ans. Et je suis ici pour suivre un cours de formation qui est centré sur l'usage d'outils numériques, activités collaboratives et activités créatives. Je suis vraiment contente parce que le cours est très très intéressant et il m'a permis jusqu'à ce moment d'approfondir beaucoup des sujets que je travaille déjà à l'école. Ici nous sommes 16. 5 italiennes, 5 allemandes, 5 portugaises et une enseignante franco-jordanienne. Et il y a des professeurs d'école, des professeurs qui travaillent au collège ou au lycée.
Et vous allez explorer le marché de Digne-les-Bains?
Oui, parce qu'aujourd'hui on doit réaliser une carte postale. C'est une activité qu'on pourra après utiliser avec nos élèves. Et donc on va faire des courses, enregistrer les bruits et puis créer une description des sensations tactiles, des parfums et des bruits. Et puis raconter Digne et ce qu'on voit.
Donc quand vous parlez carte postale, c'est évidemment, c'est pas une carte, une vraie carte postale, ce sera quelque chose de sonore, visuel.
Oui, c'est quelque chose de sonore. Donc on utilise des outils numériques pour permettre aux élèves de devenir journalistes et de se concentrer sur les sensations.
Les cours ont commencé il y a 2 jours déjà.
Oui, on a commencé lundi matin. Et le cours se terminera vendredi à midi, je pense. Et on a cours le matin et l'après-midi. Mais on fait beaucoup de formations, mais il y a aussi des activités. Par exemple, on est déjà allé au musée Gassendi. Et aujourd'hui, il y a le musée de la lavande. Et donc, il y a beaucoup de possibilités.
Et vous êtes italienne?
Je suis italienne.
Tout le monde parle aussi bien français que vous dans le groupe?
Oui, je pense que oui. Il y a des personnes qui parlent vraiment bien, quelqu'un d'autre qui a un petit peu de difficultés, mais en général, le niveau est plutôt.
Et pour vous, c'est une découverte d'Ignes-les-Bains?
Oui.
Ces environs, donc.
Oui, alors j'ai déjà été à Châteauroux, qui est ici, aux alentours, à Gap, à Barcelonnette, mais je n'avais jamais été à Digne.
Merci.
Merci à vous.
Mélanie Cornet, vous êtes formatrice au sein de Canopé?
Oui, au sein de l'atelier Canopé de Digne-les-Bains. C'est une formation qui s'intitule « Activités créatives au service de l'oral et de l'écrit en langue française » et qui s'adresse à des enseignants de toute l'Europe. Donc c'est une grande première et cette offre sera sans doute diffusée à l'échelle nationale par le réseau Canopé à partir de la rentrée prochaine. Donc on est très fiers de ce succès. Donc on accueille des enseignantes de différentes nationalités, on a des enseignantes portugaises, des enseignantes allemandes, des enseignantes italiennes et puis on a également une enseignante franco-jordanienne qui vient par un autre biais et on est très heureuse de pouvoir avoir ces échanges au sein de l'atelier.
Les objectifs de cette formation?
Alors, les objectifs de la formation, c'est de développer les compétences numériques et pédagogiques des enseignants, mais aussi de faire en sorte de créer du lien entre enseignants de pays différents pour favoriser les échanges ensuite au sein de leur classe. Donc pour ça, il y a une plateforme qui s'appelle eTwinning qui permet de favoriser les échanges entre classes via l'outil numérique. Donc on a des mobilités qui se font par le biais d'Erasmus+, et puis des échanges virtuels après par eTwinning.
Alors que des femmes?
C'est ça, on est 100% féminin. On a un formateur masculin qui nous a rejoint aujourd'hui pour changer un petit peu, mais ça nous va bien.
Les financements pour cette opération?
Alors au niveau des financements, en fait, ce sont des financements européens qui permettent aux enseignants de financer leur formation par le biais donc du programme Erasmus+, et plus particulièrement du projet Clé Action 1 qui permet aux enseignants de se déplacer dans toute l'Europe pour se former. Donc il faut pour ça que leur établissement bénéficie d'une accréditation, donc se rapproche d'Erasmus+ pour ça. Et après, ils peuvent, on accepte aussi les enseignants, venir se former à l'étranger. Donc la formation est prise en charge, leur hébergement, les frais de déplacement. Donc ce qui est valable pour les enseignants des pays européens, c'est aussi valable pour les enseignants français. Ils le savent peut-être pas assez, mais ils pourraient aussi, eux, bénéficier également de ces financements européens.
Donc aujourd'hui, c'est une activité sur le marché de Digne-les-Bains qui va être peut-être encore positive pour le plus beau marché de France. Le programme pour les jours à venir?
Alors demain, on sera sur la création de haïku. C'est des petits poèmes japonais. Donc on est dans de la production écrite courte. Mais on voit aussi également, on travaille toujours sur les différentes compétences linguistiques, hein, donc aussi bien l'écrit que l'oral. Et donc ils seront aussi amenés à oraliser ces haïkus pour faire un livre numérique. Donc on aura l'écrit, l'oral, on aura aussi des photos pour illustrer les différents lieux. Donc on va travailler d'abord le matin sur des haïkus à partir d'une œuvre d'un photographe nord-américain qui s'appelle Chris Jordan, qui a fait une magnifique recréation de la grande vague de Hokusai à partir d'éléments en plastique récoltés dans le Pacifique pour sensibiliser justement à la protection de l'environnement. Donc on partira de cette œuvre pour faire émerger du vocabulaire et pour créer les premiers haïkus. Et ensuite, l'après-midi, ils se rendront au musée promenade de Digne-les-Bains pour faire cette fois-ci des créations de haïkus in situ, tout en profitant de ce magnifique lieu qui est tout proche de l'atelier.
Et la formation se termine?
Elle se termine vendredi midi, vendredi matin, avec finalement une évaluation de la formation. Donc on retracera les différents temps de la formation. C'est aussi une façon d'apprendre, de revoir ce qu'on a fait, de voir ce qu'on a appris, comment on l'a appris. Donc c'est des méthodes aussi qui sont après retransposables par les enseignants en classe. Donc on allie le plaisir à la pédagogie. Puis ce sera aussi l'occasion de revenir sur chacune des méthodes qu'on a expérimentées et favoriser aussi les échanges pour voir ce qui sera transposé en classe et faire en sorte que les liens se poursuivent au-delà du temps de formation.
La vie en couleur paysanne.
Voilà 10 ans, des producteurs agricoles créent leur coopérative de vente directe et inaugurent Couleur Paysanne au carrefour des quatre chemins entre Manosque, Gréoux et Valensole. Identifié par sa clientèle comme un label sérieux et de qualité, l'enseigne va fêter ses 10 bougies le 9 juillet dans une ambiance forcément conviviale. La réussite de Couleur Paysanne est due d'abord à la dynamique des paysans, ce terme prend ici toute sa valeur, mais aussi à une approche commerciale adaptée. Les produits d'abord, soigneusement choisis, fruits et légumes frais, fromages et produits laitiers, viande, charcuterie, biscuits, vin, huile d'olive, entre autres, c'est toute la Provence à portée de main. Et les exploitants sont parfois présents dans le magasin pour servir les clients. Pas grand-chose à voir avec les pseudo-rayons bio et local en tête de gondole de la plupart des hyper. Avec ses 3 boutiques à Valensole, Manosque et Venelle, Couleur Paysanne est une réussite agricole, sociale et commerciale, ce qui, avec le respect de l'environnement, est largement partagé par sa clientèle. Je vous propose d'écouter le président de la coopérative, Christophe Roduit, qui était déjà aux manettes voilà 10 ans, puis un producteur, membre de Couleur Paysanne, Jean-Luc Callas. Christophe Roduit, l'aventure Couleur Paysanne a déjà 10 ans.
Oui, tout à fait. Ça fait 10 ans qu'on a ouvert le magasin. Elle avait commencé un peu plus tôt pour quand même réussir à créer cette structure et puis construire le bâtiment. Et depuis 10 ans, on propose nos produits au consommateur qui est fidèle à notre magasin. Et au fil des ans, on a réussi à accueillir de nouveaux producteurs et à proposer évidemment aux consommateurs de plus en plus de produits. Aujourd'hui, on a environ 3000 références réparties évidemment sur l'année. On a une forte saisonnalité avec les fruits et légumes. Il y a aussi quelques produits comme les fromages de chèvre ou la viande d'agneau qui sont également saisonniers. Mais autrement, on a une gamme présente toute l'année dans nos rayons.
Quel est le public de Couleur Paysanne ?
Ben, principalement local. Les gens qui viennent faire leurs courses du quotidien chez nous. Et on a également du passage touristique. Beaucoup de curistes qui font une cure de 3 semaines environ à Gréoux-les-Bains qui nous rendent visite. Ce sont nos clients principaux, évidemment.
Vous avez également développé un drive et puis aussi une expédition ?
Oui, alors on fait quelques expéditions sur longue distance, entre guillemets, pour la France, quand les gens commandent via notre site internet. Ça, ce sont des choses que l'on doit encore développer et performer.
Le cœur de l'activité de Couleur Paysanne, c'est l'agriculture bio ou raisonnée ?
Les producteurs sont en agriculture biologique ou en agriculture raisonnée. On ne fait pas de différenciation dans le rayon entre les deux. Simplement, c'est indiqué si c'est de l'agriculture biologique. Pour nous, ce sont deux productions tout à fait responsables et honorables. L'agriculture biologique répond à un cahier des charges un peu plus strict vis-à-vis des produits utilisés.
Ils sont également tous adhérents à la mutualité sociale agricole.
Et tous sont producteurs, agriculteurs et doivent donc évidemment cotiser à la MSA.
Alors justement, à côté, il y a un producteur, Jean-Luc Callas, qui est très connu dans le monde de la truffe notamment. Vous avez rejoint Couleur Paysanne.
Oui, tout à fait. Pour vous expliquer notre démarche avec ma compagne, donc on est sur une production de céréales, fruits, petits fruits. On a toujours tout vendu parce qu'on est une toute petite structure directement sur les marchés, les salons. Et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que c'était extrêmement chronophage. Ça nous prend beaucoup de temps. C'est bien, hein, la vente directe, parce qu'on rencontre les gens. Bon, et puis c'est parce que c'est la vente directe, c'est rentable. Mais ça prend énormément de temps. Le magasin Couleur Paysanne s'est ouvert. On est vraiment très content parce que on a gardé cette partie vente directe. Mais évidemment, on économise énormément de notre temps, ce qui nous permet de nous consacrer plus à l'exploitation et plus surtout à notre transformation.
Quels sont les rapports que vous avez avec les autres producteurs ici à Couleur Paysanne ?
Oh, il y a énormément d'échanges, hein, il y a énormément d'échanges. On l'a dit, Couleur Paysanne, le panel d'agriculteurs, toutes les situations sont là. Hein, donc il y en a des différents, il y a des gros agriculteurs, il y en a des tout petits, et on fait travailler tout ce petit monde ensemble. Et ce qui fait qu'entre collègues de la même production, de la même problématique, on se retrouve, on discute, on échange, on cède, on s'entraide. Hein, s'il y en a un qui a un problème, il peut demander à un autre, et ça c'est vraiment très très agréable.
C'est le 9 juillet que vous allez fêter les 10 ans de Couleur Paysanne et vous êtes en charge avec d'autres collègues de l'organisation de cette belle journée.
Tout à fait. Il y a 6 mois qu'on travaille dessus parce que les 10 ans, c'est quand même une date importante. Donc on aura une journée très dense avec beaucoup d'animations de proposer, de la restauration, de la musique, avec Gilles Cartier qui viendra animer toute la journée sur notre site. On a vraiment voulu faire une belle fête de ces 10 ans.
Avec, je suppose, toute votre équipe qui est mobilisée. On pourra croiser les producteurs à cette occasion ?
Tout à fait, il y aura une grosse mobilisation à l'occasion. Alors il y a une équipe et un staff qui ont travaillé depuis 6 mois dessus, mais pour le jour J, le jour de la fête, vous aurez vraiment une trentaine de producteurs qui seront présents pour faire des animations, pour nous aider sur la logistique, etc. Ça va être une belle fête.
Et puis Christophe Roduit, ce jour-là, il y a une réduction de 10% à la caisse. 10%, c'est pour les 10 ans.
Exactement. Ce sera vraiment un événement pour le consommateur à vivre et à profiter pour avoir une ristourne directe en caisse de 10%.
Le livre en fête à Sisteron.
La maison de la presse de Sisteron crée chaque année l'événement en organisant le livre en fête. Un excellent moyen pour les auteurs et éditeurs locaux de se faire connaître auprès des habitants comme des touristes, nombreux à visiter le patrimoine culturel et historique de la cité de Pollarène. De nombreux acteurs dans différents styles partagent leur amour des livres et les dédicaces dans une ambiance conviviale. La fête du livre se déroule en ce moment à Sisteron tous les samedis jusqu'au 10 septembre. Patron de la Maison de la Presse, Nicolas Laugier, répond aux questions de Chris Alessandri.
Oui, un événement qui se prépare et même qui s'est lancé, je dirais. Après 2 ans de Covid, j'avais le souhait de relancer cette fête du livre estivale au sein de ma Maison de la Presse. C'est tout simplement donner rendez-vous aux lecteurs et aux auteurs pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger et vraiment créer un lien, je dirais, entre le lecteur et l'auteur depuis tout ce temps qu'ils ne sont plus rencontrés. Donc oui, ça me tenait à cœur cette année de vraiment relancer avec toute la joie et la gaieté qu'on peut avoir, je dirais presque le lien social, de retrouver nos auteurs locaux et régionaux au sein de la Maison de la Presse de Sisteron et bien entendu de rencontrer mes clients réguliers, les voir échanger avec les auteurs, c'est toujours un moment passionnant. Donc l'idée est toujours la même, hein, c'est pas parce que le Covid est passé par là, donc on reprend tous les 15 jours, on reçoit un auteur. Donc sur le mois de juin, on a reçu 2 auteurs locaux sisteronnais qui ont lancé leur livre à l'occasion de la fête du livre à la Maison de la Presse. Je pense notamment à Sid qui a présenté son livre Matricule Covid-19 qui est toujours en vente à la Maison de la Presse. Je pense à Alain et Marie-Christine Arnaud qui ont lancé leur 2e livre, si je peux dire ça comme ça, Parenthèse Motocyclette, qui est en 2 tomes, qui reprend un road trip moto qui nous font voyager à travers le temps. On retrouve un petit peu le paysage, les anecdotes. Donc voilà, donc 2 sisteronnais qui ont lancé leur livre sur le mois de juin et on va continuer sur le mois de juillet. Avec le samedi 2 juillet, donc je le répète, donc c'est tous les samedis matins à la Maison de la Presse, donc samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30, Nicole Richebois qui vient présenter son titre L'héritage maudit. Ensuite, on continue le samedi 16 juillet. Et donc c'est le week-end Napoléon à Sisteron, donc bien entendu on est resté dans la thématique avec Jean-Paul Nadeo qui présente son livre Éternelle route Napoléon. Samedi 30 juillet avec Sophie Estemblé qui présente le titre Théopolis, cité perdue. Samedi 13 août avec, je dirais, le local mais que je reçois avec un grand plaisir avec son nouveau titre, c'est René Frény bien entendu, Minuit dans la ville des songes. Samedi 27 août avec Sergent Panis dit Serpent qui présente son nouveau titre Le Retour de Berlu. Et on terminera le samedi 10 septembre avec Emmanuel Breteau qui nous présente un titre, c'est un photographe qui nous présente un titre sur la transhumance. Donc vraiment voilà un choix un petit peu large qui répond, on retrouve des road trip moto, de la découverte, de la photo avec Emmanuel Breteau et puis des romans avec des auteurs qu'on a déjà rencontrés ici à Sisteron ou qu'on va rencontrer avec leur titre. Donc vraiment un rendez-vous d'échange entre les lecteurs et ces auteurs-là. Vraiment un moment convivial.
Il y a ce côté relationnel en même temps et ce côté amical qui est là. Cette rencontre entre l'auteur et entre le lecteur et futur lecteur aussi.
Tout à fait. C'est un vrai moment d'échange amical. On a la chance que certains auteurs acceptent de venir à la rencontre de leur lecteur. Et je les remercie d'accepter mes invitations sur cette fête du livre. Et c'est un moment de partage, je dirais même, puisque certains lecteurs racontent des anecdotes au cours de la lecture de leurs livres aux auteurs et des fois, ils se rejoignent tout simplement. Donc c'est vraiment un bon moment d'échange et de convivialité qu'on peut rencontrer. À chaque rendez-vous, c'est une nouveauté.
Nicolas Logier, de quelle façon est-ce que vous sélectionnez les auteurs qui viennent ici et qui sont planifiés dans ces rencontres?
Alors, c'est une sélection, propre à la Maison de la Presse de Sisteron. Déjà, on privilégie les auteurs locaux et puis aussi les nouveautés. Et après, on essaye d'être le plus large possible, pas être que sur une seule thématique, que ça soit roman, polar, thriller ou autre. Voilà, on essaye d'être le plus large possible. C'est pour ça qu'on a un photographe cette année. On a reçu aussi de la bande dessinée. Voilà, on cherche vraiment de mixer la série sélection des auteurs pour vraiment convenir au large public que la Maison de la Presse a le plaisir de recevoir tous les jours. En plus des dédicaces à la Maison de la Presse, on a la chance maintenant avec notre partenariat France Loisirs, puisqu'on est une des boutiques France Loisirs au niveau national, d'avoir cette année, comme je dirais assez souvent, le dernier livre d'Arlard Coben, Identité croisée, en avant-première. Donc à partir du 21 juin, vous pourrez le trouver dans les rayons de la Maison de la Presse à Sisteron, 3 mois avant sa sortie nationale en librairie classique. Je le remercie à travers ce titre qu'on aura 3 mois en avance à la Maison de la Presse de Sisteron. Donc son nouveau titre, Identité croisée, à partir du 21 juin.
Est-ce que les auteurs se portent bien? Est-ce que la lecture va bien?
La lecture va bien, les auteurs se portent bien. Je dirais que le livre se porte bien grâce ou à cause du Covid. Certains se sont retrouvés un petit peu de lecture. Ils se portaient pas plus mal que ça dans le passé, mais c'est vrai qu'il y a un petit boom pour la lecture et pour le livre. Le papier est une valeur sûre. Le numérique a pris sa place et est en train de prendre sa place. Pour donner quelques chiffres, ça fait bien longtemps qu'aux États-Unis les tablettes de lecture existent et c'est seulement 3% de part de marché de la lecture. Donc je pense que le livre et le papier ont un bel avenir devant lui encore. Donc, premier rendez-vous, samedi 2 juillet, avec Nicole Richebois pour L'Héritage Maudit.
Jacques Gustini, vous êtes voisin de la Maison de la Presse. Alors là, vous vivez en live directement tous les événements qui se font. Qu'est-ce que vous pensez de ces rencontres autour du livre?
C'est très bien. Je pense que c'est très très bien ce que fait Nicolas. Ça apporte de la dynamique au quartier et les dédicaces sont très intéressantes. Il y a de très jolis ouvrages.
Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas dans le livre là?
Non, pas du tout. Non. Je fabrique de la charcuterie et je vends de la viande.
Ça fait bon ménage?
Oui, bien sûr. C'est très bien. Les dédicaces le samedi sont toujours très intéressantes, très très surprenantes, très bien. Ça amène beaucoup de monde, c'est bien.
La DLVA lance les estivales 2022.
Ce sont des soirées que les villages attendent avec impatience. Cette 12e édition s'ouvre le 12 juillet et sera bouclée le 20 août. Entre ces dates, 9 ensembles musicaux variés se seront produits dans 17 communes de l'agglomération manosquine. Rock, funk, disco ou encore reggae assureront l'ambiance de ces chaudes soirées. Des temps forts qui allient la fête conviviale et un mélange des publics aux découvertes musicales. Avec la musique, le cinéma en plein air sera aussi plébiscité dans 4 communes lors de projections, là aussi, inoubliables. Écoutons le président de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, Jean-Christophe Pétrini, parler de cette opération sur son territoire. Puis nous entendrons André Mille, maire de Pierrevert, qu'une soirée reggae le 4 août avec Léo, le leader des Raspigao, viendra compléter un été déjà bien fourni. Jean-Christophe Pétrini, les estivales, on peut dire que c'est une opération de décentralisation de la DLVA?
Oui, c'est la 12e année que l'on met en place ces estivales. C'est exactement une opération de décentralisation. On a à cœur au sein de l'agglomération et j'y tiens énormément à ce que la culture se déplace vers les habitants et se déplace également aux endroits où les villages sont les moins peuplés. C'est important et un point aussi qui est important, c'est la gratuité de ces spectacles, accessibles à tous, et qui permet aussi de renforcer l'attractivité touristique des villages. C'est une 12e édition qui est bien menée, avec une qualité vraiment exceptionnelle des participants. J'invite tout le monde à venir voir ces spectacles cet été.
Découvrir des artistes et des expressions culturelles également, mais en même temps faire la fête.
Exactement, on en a bien besoin, en espérant que le Covid nous a abandonnés définitivement, même s'il y a encore malheureusement quelques cas. Voilà, on a besoin de se retrouver collectivement, de façon fraternelle. Je crois que les gens en ont vraiment besoin.
C'est un axe fort de la collectivité, de la DLVA, d'organiser ce type de manifestation.
Oui, c'est un axe important. On va essayer aussi d'amener la culture, mais là sur un tout autre sujet, en direction des tout petits. Et on est en train de monter un festival pour les 0-6 ans au niveau des crèches, des écoles maternelles, pour amener aussi le spectacle vivant dans les écoles. Et ça aussi, c'est important. Également, de manière gratuite, pour que les communes, qui sont généralement les plus petites et les plus pauvres, entre guillemets, puissent aussi avoir accès à ce type de manifestation.
À vos côtés, Monsieur le Président, votre vice-président, qui est également maire de Pierrevert, André Mille. Pour une commune comme Pierrevert, cette soirée est gratuite, et pour vous, ce sera le 4 août, c'est important et c'est dynamique.
Oui, c'est dynamique. D'abord, je remercie la DLVA d'avoir voulu lancer ce programme des festivités des estivales de Pierrevert, ce que je remercie Jean-Christophe Pétrigny. Et puis ça, c'est une soirée magnifique, quoi, qui vient s'insérer au milieu des autres soirées que nous faisons à Pierrevert, comme les nuits photographiques qui prennent d'année en année de plus en plus d'ampleur. Preuve année que cette année, le président, c'est Jean-Marie Perrier, le fameux photographe des années 80, et qui va mettre une ambiance de folie, j'en suis sûr. Et après, on a le rose aidé, ça c'est Pierrevert pour Pierrevert. Mais puis, comme disait le président, la qualité de la DLVA et son idée, c'est de faire participer à tout le territoire. Voilà. Il n'y a pas que la vallée de la Durance, il y a beaucoup de territoires dans le Verdon, tout ça. Il faut que tout le monde se sente partie prenante. C'est ce que j'essaye au sein de ma délégation, l'économie, que tous les ateliers, ça je sors un peu du cadre, mais tous les ateliers de création, etc., j'ai voulu que ça se fasse un peu sur tout le territoire.
Pour revenir à l'aspect festif des estivales, il y a un aspect important, c'est que ça permet de mélanger, entre guillemets, les visiteurs, les touristes et les résidents.
Oui, et puis ça permet, je vous dis, il y a un monde fou, nous, on est mitoyens avec le Luberon, où il y a un monde fou, et ça permet de faire venir ces gens-là un peu sur Pierrevert. Voilà, et c'est très bien, et ça fait un mixte entre les Pierreverdins de souche et les touristes, quoi. Voilà, c'est une très bonne chose.
Alice Guy, pionnière du cinéma, à l'honneur en pays sisteronnais.
C'est un destin extraordinaire et unique que dévoile une exposition à Sisteron. Aux manettes, l'association Sistar qui accueille cet événement organisé par l'association des amis d'Alice Guy. Cette exposition hommage à la première cinéaste de fiction au monde est proposée à la galerie L'Atelier 36 rue Mercerie en ce moment. Tout un circuit au travers de panneaux didactiques et de projections de 5 de ses meilleurs films. 9 artistes ont également réalisé pour l'occasion une œuvre hommage à la réalisatrice. Alice Guy en pays sisteronnais présente la vie et l'œuvre de la première cinéaste de fiction mondiale par l'intermédiaire de différents univers à découvrir dans les méandres des pièces et voûtes en pierre de taille de la galerie L'Atelier. Deux univers de création, le premier à l'heure des balbutiements du 7e art et l'autre plus actuel et respectueux d'un parcours d'une femme exceptionnelle. Le tout est orchestré et harmonisé par l'arrière-petit-fils de la pionnière du cinéma, Thierry Peters. Rencontre justement avec Thierry Peters pour nous guider au cœur de cette exposition, mais d'abord, Sylvain Poncet, président de Sistar, répond aux questions de Chris Alessandri.
Alors l'association Sistar est heureuse d'accueillir une exposition sur Alice Guy, donc la première cinéaste mondiale qui est une femme. Donc cette exposition est organisée par l'association Les Amis de Alice Guy. Mais nous, l'association Sistar, on a contacté nos artistes et des artistes qui sont aussi en dehors de l'association, qui sont sisteronnais, pour travailler sur l'imaginaire de Alice Guy et en réalisant des œuvres qui correspondent aux films qui sont présentés dans l'exposition.
Thierry Peters, nous sommes dans une ambiance tout à fait particulière, avec, je dirais, un clin d'œil au passé et au présent en même temps.
Sur l'exposition Alice Guy, on retrouve le premier film de fiction, Association de l'image animée des Frères Lumière et l'art théâtral. Derrière nous, nous avons une dizaine de personnes qui sont là, qui sont en train de regarder des films muets.
Thierry, histoire de nous rappeler simplement le lien de parenté qu'il y a entre vous et cette pionnière du cinéma.
Alors, c'est mon arrière-grand-mère, première femme de l'histoire du cinéma, qui a travaillé pour Léon Gaumont, et compagnie de 1896 à 1906. Et ensuite, elle a créé ses propres maisons de production aux États-Unis à partir de 1910 jusqu'à fin de carrière en 1921.
Là, nous sommes en train de regarder une projection. De quoi s'agit-il ?
Alors, ce sont trois petits films. Un premier film qui est La Fée aux Choux de 1900. Le deuxième film, La Sage-Femme de Première Classe. Et le troisième film, Madame a des envies de 1906.
Alors vous-même, en tant qu'organisateur et puis sentimentalement lié par le sang, qu'est-ce que vous ressentez dans un événement comme celui-ci en ce moment, par exemple ?
De la fierté. Et puis l'intérêt des gens pour cette mémoire du cinéma, mais du cinéma féminin. En fin de compte, c'est le regard d'une société par une femme. Alors que tous les autres, ce sont des hommes, que ce soit les Frères Lumière, que ce soit Méliès, que ce soit Pathé Frère, ou même les caméramans de chez Gaumont aussi. La seule femme ayant montré un regard différent sur son environnement, sa société, à son époque. Et quand on transpose ça 100 ans plus tard, ça n'a pas pris une ride. Il y a un film qui est projeté sur la verrière, il s'appelle Making American Citizen, je l'ai réintitulé Un homme et une femme. Il parle de la maltraitance, de la violence dans un couple, et après ça, il y a un happy end quand même qui se fait, mais ça c'était son regard déjà en 1910. Il n'y avait pas de cinéma d'art et d'essai, là c'était tout public, et ça avait pris un très très gros impact, et elle a été très très recherchée comme réalisatrice.
Alors une superbe exposition qui nous plonge dans le temps, dans tout un univers. Cinéma muet, et on a de la musique qui accompagne les images.
Absolument. Pour certains, c'est un piano. D'autres films, c'est un artiste qui s'appelle Christophe Bonnard, un ami qui a fait une interprétation de jazz. Il y a un petit espace boîte de nuit au sous-sol qui est assez sympathique sur un film qui s'appelle Danse Serpentine.
Mesdames, Messieurs, vous venez d'où pour assister à cette exposition ?
Lyon.
Pourquoi vous êtes venus ?
Parce qu'on a découvert qu'il y avait cette exposition et qu'on est intéressé par le cinéma.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais c'est très sympa. On connaît les films Lumière, donc ça va bien.
Mesdames, Messieurs, vous venez d'où ?
De l'Oise. On fait partie d'un petit groupe d'amis.
Parce qu'ils faisaient trop et on chaud adore... chez nous en descendant le sud où non, il fait moins chaud.
On adore faire des découvertes, justement, à Alice Guy. C'est exceptionnel de trouver quelque chose sur elle. Pour l'époque, c'est fantastique ce qu'elle montre.
Vous pensez des films, messieurs, dames, là, que vous regardez ?
C'est rempli d'humour, c'est extraordinaire.
D'idées.
Ouais. Et puis c'est extrêmement créatif en plus, quoi. On est quand même dans les débuts du cinéma. Hein. Et ce qui est amusant, c'est qu'en plus, c'est construit. Hein, c'est pas que de l'innovation comme
ça,
à titre
gratuit.
Il y a l'envie de créer quelque chose, on voit bien. Il y a une histoire quand même, hein. Il y a un scénario. Non, c'est vraiment très très chouette. Ouais.
Et c'est féminin. C'est féminin en plus, c'est ça qui est la fée aux choux et tout ça, c'est très surprenant.
C'est très réjouissant, c'est très, très sympathique, oui. Une belle découverte.
Vous attendiez à de telles images qui remontent à 1906 ?
Non, on connaissait les Frères Lumière, mais pas du tout Alice Guy.
Effectivement, on ne connaissait pas du tout Alice Guy. On est très heureux de connaître et de voir ce qu'elle avait produite.
Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le regard d'une femme, surtout à cette époque.
Voilà. Pionnière, madame ?
Oui, exactement, oui. Une aventurière et qui avait bien raison d'ouvrir le chemin.
Quant à vous, madame, le film vous inspire des petits pas de danse aussi ?
Ah ouais, absolument ! J'ai envie de tourner, quoi, c'est ça ! Parce que la Terre tourne, parce que les planètes tournent, parce que on fait vibrer nos cellules et qu'on est plus vivant.
Là, on se retrouve au troisième sous-sol, où il y a une projection de Danse Serpentine, deux films de 1897 et de 1902. C'est une danse qui a été préparée, la chorégraphie, par Louis Feller. On est à l'intérieur de la Terre, on est au troisième sous-sol, donc. Et puis surtout, ça nous fait une boîte de nuit. J'ai voulu que ce soit festif. Le son est un son d'aujourd'hui. Et on peut se regarder à travers le miroir et faire des pas de danse.
Il y a la boule à facettes.
Absolument. Alors là, on est au premier sous-sol. C'est un film sur Napoléon que l'on a trouvé il n'y a pas très très longtemps, qui est gardé à la librairie du Congrès aux États-Unis. Ce film qui m'a fait penser à Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Pourquoi La folie est proche ?
La folie est proche. Le Napoléon qui est là, c'est un Napoléon complètement délirant.
Thierry Peters, une exposition qui connaît un vif succès. Alors, pour venir voir cette superbe exposition.
Alors, tous les jours, du mardi au samedi, de 14h à 18h. Jusqu'au 1er juillet, sa fête anniversaire, où elle fêtera ses 149 ans. Donc, on va faire une projection en extérieur sur les panneaux de la ville. Et puis, on fera un petit grignotage où chacun pourra amener quelque chose pour pouvoir participer à ça.
Joseph Chovanec à Manosque, autiste parmi les autistes.
L'homme est une référence incontournable lorsque l'on parle de l'autisme. Autiste Asperger, depuis des années, Joseph Chovanec s'active pour que le regard de la société change sur les TSA, troubles du spectre autistique. Philosophe, enseignant et hyper polyglotte, il a également écrit plusieurs ouvrages marquants, participant à la reconnaissance et la dignité des personnes atteintes d'autisme. Et avec son caractère bien trempé, Joseph Chovanec représente des voies de sortie possibles pour des milliers d'autistes dont le quotidien est le repli sur soi et l'incompréhension du monde extérieur qui, soit dit en passant, le leur rend bien. Après une intervention sur les intelligences multiples à Gréoux, il s'est rendu à Manosque au J'aime la différence que gère l'association Au Moulin de l'Éveil, dans un appartement dédié et équipé. Ateliers de création musicale, graphique ou impression 3D, salle de sport, espaces de repos et locaux partagés, le GEM favorise les échanges entre les personnes sous l'œil bienveillant de l'Agence régionale de santé qui le soutient. C'est dans ce cadre que j'ai pu interviewer Joseph Chovanec pour évoquer son action sur la situation de l'autisme dans notre pays, mais aussi son sens de l'humour, une arme redoutable pour faire avancer les choses. Joseph Chovanec, quel est le sens de votre visite au GEM à Manosque?
Tout d'abord, il faut dire ma joie de pouvoir partager un moment avec les jeunes du GEM, donc du groupe d'entraide mutuelle de Manosque, qui sont donc des personnes autistes qui font vivre ces lieux, ces différentes salles d'activité et surtout ces lieux de vie. Pour moi, c'est un moment de partage, c'est un moment aussi où je peux revoir des amis et je peux m'émerveiller face à tout ce qu'ils ont fait.
C'est un petit peu des travaux pratiques pour vous qui avez créé, entre guillemets, les GEM.
Oui, les GEM autisme avaient été mon tout premier combat militant il y a déjà fort longtemps. Mais entre, je dirais, l'idée et la concrétisation, il y a des années qui se passent. C'est ce qu'on appelle l'administration, quoi. Voilà. Mais quand même, c'est très impressionnant de pouvoir se rendre dans un lieu comme celui-ci, avec tout ce qui s'y passe, avec tout l'attachement perceptible des jeunes pour cet endroit. Et pour certains, c'est vraiment la planche de salut. C'est ce qui fait la teneur de leur vie. Et peut-être qu'il y aurait tant d'autres jeunes ou moins jeunes qui sont marginaux, qui pourraient bénéficier de ce type d'environnement et d'être acteurs de leur vie.
Parlons de l'autisme, évidemment. Le grand public fantasme sur les capacités intellectuelles des autistes, mais leur vie est beaucoup plus difficile que ce que l'on pense et ce que l'on croit.
Oui, mais je dirais qu'à peu près tout le monde peut avoir de grandes capacités dans tel ou tel domaine. Et chaque être humain, je crois, a des compétences dont il est plus ou moins conscient, quoi, et qui sont plus ou moins mises à profit. Mais chaque personne, j'en suis convaincu, peut avoir des compétences remarquables sur telle ou telle chose. C'est ce qu'on appelle les intelligences multiples. C'est un peu le nom savant de ce constat-là. Donc, dans le domaine de l'autisme, il y a des gens autistes qui adorent, que sais-je, la natation, qui peut être très fort dans le domaine. Il y en a qui sont des experts en impression 3D, d'autres qui savent faire de la couture comme personne. Voilà. Mais de là à convertir, pour ainsi dire, ces aptitudes en des aptitudes socialement reconnues et qui apportent un revenu, Ça, c'est pas gagné, quoi. Hein. Parce que notre société est fondamentalement irrationnelle. Hein, la sélection professionnelle se fait sur des critères qui n'ont rien à voir avec les besoins exacts de l'entreprise. Hein. Donc, on vous sélectionne ou recrute en fonction de votre nœud de cravate, hein, en fonction de votre apparence. Est-ce que vous avez fait la même grande école que le directeur ou pas? Voilà. Tous ces facteurs-là, qui sont totalement irrationnels, eh bien, éliminent les personnes jugées différentes, hein, en particulier les personnes autistes, mais pas que.
Il faut bousculer tout ça?
Oui, bousculer. Ceci étant, à titre personnel, je ne crois plus en l'idée d'une, par exemple, grande révolution qui changerait tout et qui permettrait, par exemple, de construire cette fameuse société inclusive. Je pense que, de façon plus réaliste et plus efficace, on peut créer des petits lieux, des petites solutions locales. Ça, c'est beaucoup plus réaliste, quoi, et qu'on peut les observer, on peut les voir grandir, progresser. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus efficace que les grands fantasmes à grande échelle.
On est ici d'ailleurs dans une illustration de ce que vous dites au J'aime la différence à Manosque. Comment est-ce que l'on peut faire changer le regard du grand public sur l'autisme et les troubles autistiques?
Je crois que la meilleure façon pour découvrir le Japon, c'est d'aller au Japon. La meilleure façon de découvrir l'autisme, c'est de rencontrer des gens autistes. On pourrait tout à fait imaginer que cette maison qui est ouverte puisse accueillir des visiteurs et se fasse guider dans cet univers autistique par des guides, on va dire, particulièrement qualifiés, parce que authentiquement locaux, quoi. Voilà. Et donc ça, je pense qu'on pourrait imaginer un sorte de programme Erasmus, quoi, pour adultes, quoi. On pourrait découvrir mutuellement les cultures et les habitudes de l'un et de l'autre.
On peut évidemment renverser cette réflexion de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on peut exiger des entreprises qu'elles accueillent des personnes autistes, donc qu'à l'école on accompagne également des autistes de manière à faciliter la vie et l'inclusion entre guillemets.
Oui, on peut, on doit exiger toutes sortes de choses, mais malheureusement je crois lorsque on crée une obligation légale, il y a toujours des façons de la contourner, hein, et des effets pervers. Vous faites sans doute allusion au fameux quota, hein, d'emploi de personnes handicapées. Hein. Donc le quota, ce jour en France, est de 6% pour les employeurs qui ont plus de 20 salariés. Ce quota, je ne dirais pas qu'il soit une mauvaise chose, mais il mène à toutes sortes d'aberrations. L'une des aberrations, c'est que, par exemple, on recrute des personnes handicapées pour les, je dirais, jobs que les autres ne veulent pas exercer. Donc, on fait une sorte d'arrière-boutique, pas au contact avec le client, où on essaye de masser les personnes qui font le quota et qui évidemment seront dans des conditions pas très très flatteuses, hein, voilà. Et par contre, il y aura pas une seule personne handicapée sur les postes, on va dire, en contact avec le public, et surtout pas dans la direction, quoi, voyez. Donc ça, c'est un effet pervers très commun. Il y a aussi toutes sortes d'autres combines où on exerce des pressions sur ses salariés pour que, via un médecin, on va dire, ami, hein, si vous voyez le sous-entendu, tout se fasse reconnaître ceci ou cela sur le plan médical. Hein. Il y a aussi ce genre de phénomène. Donc, il y a des effets pervers, hein, qui se mettent en œuvre. Et aussi, on voit bien que tous les handicaps n'ont pas bénéficié de la même façon, hein, des différentes politiques publiques. Le monde du handicap en France, c'est une juxtaposition de petits empires, ou plutôt de bantoustans, hein, si j'ose utiliser ce terme glauque, quoi. Et où, en fonction de l'aptitude au lobbying de tel ou tel sous-empire ou clocher, hein, dans le petit monde du handicap, votre handicap sera mieux accepté ou pas du tout accepté. Hein. Et dans le monde de l'autisme, pendant longtemps, on a été bien moins performant en termes de lobbying public que d'autres handicaps. Là, l'autisme devient un peu à la mode, et donc il y a des budgets qui rentrent, mais ce n'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que ça crée des effets pervers. Il y a toutes sortes de rapaces qui commencent à essayer d'avoir leur morceau de fromage, quoi. Donc je crois qu'un mode politique profondément centralisé n'est pas très favorable au respect de la différence humaine.
Joseph Chovanec, vous êtes une personnalité reconnue et en même temps très attachante. Vous utilisez aussi une arme qui est redoutable et dont peu de personnes ont conscience, c'est l'humour.
Merci. Je pense que l'humour est une façon de se faire accepter. Il y a bon nombre de personnes handicapées qui ont appris à utiliser cet humour en tant qu'outil d'inclusion. Mon tout premier employeur était un monsieur aveugle de naissance, natif d'Alger, donc Amou Bouakaz, homme politique ou ancien homme politique français. Et donc lui, il maniait l'humour avec une perfection qui me laissait toujours songeur. Et comme j'ai travaillé pendant des années pour lui, j'ai essayé de l'imiter, d'apprendre à manier cet humour. Je n'y suis pas parvenu, du moins pas du tout au même stade que lui. Mais il m'a bien expliqué que quand on rencontrait quelqu'un, on avait un tout petit créneau d'une quinzaine de secondes, ou 20 secondes peut-être, pour caser une blague. Si on réussit à ce moment-là à faire rire l'autre, eh bien on va se faire accepter. Il est biologiquement impossible de haïr quelqu'un qui vous fait rire, quoi, ou presque. Voyez, donc on peut essayer d'utiliser l'humour comme outil d'inclusion, et en tout cas c'est ce qu'on peut essayer d'apprendre à des jeunes personnes qui sont exclues, quoi. Voilà. Et rien que le fait de sourire, par exemple, ça change totalement votre parcours de vie. Actuellement, je bosse dans une grande université belge, celle de Louvain. Je peux constater qu'un profil à handicap égal, un étudiant qui sourit aura une bien meilleure inclusion. C'est assez étonnant à quoi ça se joue. Oui.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier. Juste avant de se quitter, un communiqué important que nous ont envoyé nos amis de l'établissement français du sang à cause justement de la pénurie en ce moment de sang. Et donc, malgré la mobilisation des donneurs au mois de juin, nous dit l'EFS, le niveau des réserves de sang reste trop faible pour affronter l'été. Il y a donc urgence. C'est d'ailleurs le deuxième bulletin d'urgence vitale que publie l'EFS. C'est assez inquiétant parce que à moins de 6 mois d'intervalle, un bulletin d'urgence vitale, c'est rarissime. C'est rarissime. Le niveau des réserves de sang de la France est historiquement bas. Une situation critique à la veille des départs en vacances qui pourrait se révéler dangereuse à court terme pour soigner les patients. C'est donc un appel à l'aide que signifie l'EFS avec des donneurs de sang qui sont sollicités, mais pas en nombre suffisant. Donc mobilisez-vous, mobilisons-nous. Et puis, vous le savez aussi, faut-il le préciser, les malades, eux, ne prennent pas de vacances. La France, qui se trouve aujourd'hui dans une situation similaire aux autres pays européens, doit absolument retrouver un niveau de stock de 110 000 poches de sang d'ici la mi-juillet, alors que ce stock est aujourd'hui inférieur à 90 000 poches de sang. Il y a donc urgence, et notamment urgence en ce qui concerne les besoins en O+, O-, et puis en B+, pour les besoins en sang dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc si vous voyez évidemment les collectes dans les établissements hospitaliers ou bien dans les véhicules qui sont indépendants et qui circulent, et qui sont malgré tout évidemment floqué de l'établissement français du sang, n'hésitez pas, c'est un geste qui ne coûte rien et qui rapporte beaucoup pour les gens qui le reçoivent. Merci Olivier pour la régie. Bonne journée, à bientôt.